publié en octobre 1942. Donc Albert Camus part du phénomène du suicide pour s'interroger sur le sens de la vie, donc sur le fait de décider ou non que la vie vaut la peine d'être vécue. Et pour l'auteur, c'est une question sérieuse et essentielle qui va bien au-delà de la recherche de la connaissance ou de la vérité scientifique. Donc l'auteur montre que la vie en elle-même est absurde dans le fait que l'homme se projette dans l'avenir et rêve d'un futur meilleur en poursuivant des buts et des objectifs et en partant du principe que le lendemain existe, que le futur existe, alors qu'en lui-même, chaque jour passé nous rapproche de la mort. Cependant, pour l'auteur, en fait, c'est ni la pensée humaine ni le monde qui est absurde, c'est l'intersection des deux. En fait, c'est l'obsession de l'homme à comprendre le monde qui est en lui-même irraisonnable qui rend la vie absurde. Donc, à partir de là, l'auteur va montrer qu'il y a des suicides philosophiques, enfin, c'est ce qu'il appelle des suicides philosophiques, dans le sens où certains philosophes nient l'hypothèse de l'absurde pour essayer de tirer des sortes de conclusions, des généralités sur la vie. Et il montre que pour expliquer un monde qui ne suit pas de raison logique, les hommes vont souvent se tourner vers l'existence de Dieu et en cela ils renient en quelque sorte leur liberté. Une autre hypothèse qui vient de cette absurdité, c'est l'art. Pour l'auteur, l'essence de l'art, c'est l'absurde. Car si le monde était objectif, l'art n'aurait pas de raison d'exister. Pour autant, se suicider, ce ne serait pas se révolter par rapport à l'absurde, mais ce serait au contraire accepter la limite de la vie. Et se suicider reviendrait en fait à un consentement plutôt qu'à une révolte. En ceci que la mort est en fait le destin de tous. L'auteur va également développer trois exemples de personnages qui sont pour lui des héros absurdes. Donc il développe les exemples de Don Juan, le personnage du comédien, ainsi que le personnage du conquérant. Donc Don Juan est un personnage qui ignore la tristesse, donc pour Camus, la tristesse vient soit de l'ignorance, soit de l'espoir, et Don Juan n'espère pas et n'ignore pas. Donc l'auteur, il va finalement présenter Don Juan comme un personnage qui serait sage et qui, contrairement à ce que l'on peut penser, ne collectionne pas les femmes, car ce mot insinuerait en fait que Don Juan vit dans le passé, alors que Don Juan ne vit pas dans le regret, Don Juan vit dans la passion et dans l'action. Donc Don Juan est en fait un personnage qui a accepté que l'amour était éphémère et qui trouve son plaisir dans la séduction. Et le personnage au final ne quitte pas une femme parce qu'il ne l'aime plus et il quitte en fait une femme parce qu'il désire en aimer une autre. Albert Camus développe également l'exemple du comédien. Donc le comédien vit plusieurs personnages à la fois, le sien et des rôles qu'il joue à répétition mais seulement pour quelques heures et de façon éphémère. Donc une des idées qui ressort du développement sur le passage du comédien, c'est l'idée que le paraître ferait l'être dans une certaine mesure. Donc par exemple l'auteur explique qu'en assistant à plusieurs représentations du comédien, on peut se faire une idée de plus en plus précise de l'homme, de l'homme derrière le comédien. Et pour cela, Camus explique que l'homme se définit aussi bien par ses comédies que par ses élans sincères. Et le troisième exemple que Camus développe, c'est celui du combattant, du guerrier. Donc dans cet exemple, Camus il va opposer l'action et la contemplation. Et en cela, les conquérants sont des héros absurdes, car ils savent que l'action en elle-même, elle est inutile. Donc finalement pour Camus, l'homme devrait, plutôt que de chercher à vivre mieux et dans le futur, l'homme devrait simplement vivre plus et apprendre à vivre de ses contradictions. Et contrairement à l'idée qui pourrait apparaître, l'homme qui accepte son destin, qui accepte que le destin n'est pas une punition en quelque sorte, est en fait un homme libre car il accepte sa limite. Et par ailleurs, sa vie ne dépend pas des circonstances, dans le sens où deux hommes qui auraient vécu le même nombre d'années, aurait vécu le même nombre d'expériences, ou en tout cas aurait eu le même nombre d'expériences potentielles, mais la finalité de leur vie revient à leur positionnement par rapport à ces expériences. Finalement, toute cette idée, elle est illustrée par le personnage de Sisyphe, donc c'est un héros de la mythologie grecque, qui est condamné par les dieux pour les avoir défiés, à pousser un rocher au sommet d'une montagne, et donc évidemment le rocher retombe finalement à son point de départ, et il est condamné à faire ça de façon continue. Donc il y a énormément d'auteurs qui ont traité le sujet de Sisyphe, mais dans un sens tragique. Sauf que pour Camus, il faut s'imaginer Sisyphe heureux. Donc en fait, Sisyphe, c'est la représentation de notre monde qui est absurde. Et cela en fait illustre en quelque sorte, enfin illustre totalement même l'idée de Camus pour laquelle la vie en elle-même n'a pas de sens, mais c'est l'homme qui donne un sens à sa vie. Donc finalement, si Sisyphe se concentrait uniquement sur son accomplissement et sur son action, il serait heureux en faisant abstraction des circonstances extérieures et du fait que sa tâche n'a en soi aucun sens. Voilà, et personnellement, j'ai choisi ce livre parce que, bah, tout d'abord parce qu'Albert Camus est mon auteur préféré, et parce que c'est une philosophie avec laquelle je suis d'accord, qui n'est pas fataliste et qui remet l'homme, ses perceptions et le sens qu'il donne aux choses avant l'ordre du monde, au supérieur, au-dessus à l'ordre du monde.